Bonjour à tous.
Quand on sait que l'augmentation de la trajectoire carbone sur le quinquennat génère 15 milliards d'euros supplémentaires et qu'on n'a pas été capable d'affecter 10% dans un premier temps chaque année pour cet accompagnement social, comprenez aussi que ça a probablement participé à ma démission.
Ainsi parle Nicolas Hulot, qui a donc rendu son tablier il y a 3 mois. Première prise de parole et ce chiffre qui résume tout, 15 milliards de plus sur la table si la taxe sur l'énergie augmente comme prévu. 15 milliards. Alors si on veut, bien sûr, ça peut alléger le déficit, mais ça permet quand même aussi de bien accompagner les Français, repousser la fin du monde et assurer les fins de mois. Pour éviter les gilets jaunes, il fallait y penser. Hulot dit qu'il l'avait bien dit. Il l'a donc répété à la télé. Cependant, ce sont bien les gilets jaunes qui ont finalement forcé l'exécutif à entendre. Annonce supplémentaire mardi du chef de l'État. Seront-elles à la bonne échelle? C'est la question. Mais de toute façon, ça ne répondra pas à un manque. Le manque de débat sur l'impôt. Incroyable quand même de parler autant du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et de continuer à ne pas débattre du fait que ce sont les autres impôts qui rapportent. La TVA, la CSG par exemple. Ceux qui sont proportionnels, qui ne tiennent pas compte de ce que chacun gagne. Ceux dont le poids augmente depuis 30 ans. Voilà, pour éteindre le feu qui couve, il faudra bien un jour débattre vraiment de progressivité et de justice fiscale.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, l'écho ne s'arrête pas, mais le samedi, nous sommes les maîtres des horloges. Toute l'équipe vous salue. Colin Guyenne, le réalisateur, Valentin Pérez, l'attaché de production, et Gilles Gaillard à la technique ce matin. Ce 24 novembre, au petit déjeuner, nous vous proposons l'affaire Ghosne, vue par les débatteurs. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Le Chypre de BFM Business, bonjour à vous Emmanuel.
Bonjour à tous.
Vous n'étiez pas d'accord avec moi? Ou alors c'était juste un petit mouvement de l'œil?
Non,
là, qui
pas du tout. Mais la question, c'est pas seulement la répartition de chaque impôt. On sait qu'en France, effectivement, l'impôt sur le revenu pèse très peu, mais parce qu'il est mité par tout un tas de niches, etc. Donc, faudrait qu'il y ait plus de gens qui payent l'impôt sur le revenu.
Et puis surtout,
c'est pas surtout qu'une question de répartition des impôts, c'est une question de niveau de pression fiscale globale qu'il faut diminuer.
Christian.
Mais c'est vrai qu'on est plutôt en quête au niveau mondial d'une base d'imposition assez large et de taux d'imposition plutôt faible. La question, c'est aussi la répartition entre ce que payent les entreprises et ce que payent les ménages.
Ça serait un autre débat alors, parce que aujourd'hui, l'affaire Ghosne. Et puis nous parlerons des femmes dans le Mag Éco. Bon, l'outil sur les inégalités salariales, il a été présenté jeudi. C'est bien, mais la discrimination dans l'entreprise, elle s'installe de beaucoup d'autres façons. La hiérarchie, par exemple, si peu de femmes aux commandes des entreprises. Le plafond de verre est bien solide. Il y a quand même des solutions. Vous entendrez le reportage de Dila Tebi. Où sont les femmes? La question se pose aussi dans le nouveau monde, dans les start-up. Ce samedi, l'invité du Mag Éco, c'est la directrice de Station F, le plus grand incubateur au monde, Roxane Varza, une femme influente. Et puis notre influenceuse à nous, bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Question de...
d'Élodie sur le compte personnel de formation, le CPF, faut-il le solder vite avant les fêtes, avant qu'il ne passe en euros?
Oui, il paraît qu'il y a un rush, vous nous direz ça tout à l'heure. Tout de suite, méditation matinale sur cette affaire Ghosne.
Novembre 2018.
C'est un coup de tonnerre. Le patron emblématique de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a été arrêté ce matin au Japon.
Carlos Ghosn has just been arrested.
Carlos has landed himself into legal trouble.
Il est notamment soupçonné d'avoir dissimulé des revenus au fisc.
Je dirais simplement très clairement que
Emmanuel Macron,
l'État en tant qu'actionnaire, sera extrêmement vigilant à la stabilité de l'Alliance et au groupe. Et avec celui-ci, évidemment, à la stabilité nécessaire pour l'ensemble des salariés du groupe.
Carlos Ghosn 容疑者は, 平成27年までの5年間に,
the chairman falsified reports of his earnings, has manipulated financial filings, including the personal use of company assets.
Accusation portée par Nissan, qui a même annoncé que Ghosn allait démissionner.
Pour vous, Carlos Ghosn n'est plus en état aujourd'hui de diriger le groupe?
Non, il est de fait...
Bruno Le Maire.
Plus en état de diriger le groupe.
Ministre de l'économie.
En revanche, nous n'allons pas demander le départ formel de M. Ghosn au conseil d'administration pour une raison qui est simple. Nous n'avons pas de preuves. et nous sommes dans un état de droit.
It's incredible, it's unbelievable what is transpiring here, and it is, it's a Shakespearean drama.
On le décrit comme étant un monstre sacré, c'est toute une personnalité. Alors, qui est Carlos?
C'est un grand capitaine d'industrie.
Flavien Neuvy.
C'est un vrai visionnaire.
Directeur de l'observatoire CTLM.
Et il a fait de cette alliance le premier vendeur de voitures neuves au monde, devant General Motors, devant Volkswagen, c'est quand même pas rien.
Je dois dire qu'il s'agit du côté obscur de l'ergone.
Hiroto Saikawa.
Qui a duré de longues années.
Directeur général de Nissan.
Il est problématique en termes de gouvernance que le patron de Renault, qui détient 43% des actions, ait également dirigé le groupe Nissan, car trop d'autorité a été donnée à une seule personne.
Voir
Thierry Breton.
Quelques heures. Après cet événement,
PDG d'Atos,
mondialement médiatisé,
et ancien ministre de l'économie,
le directeur général de Nissan, dire que le conseil va se réunir, mais il donne déjà les conclusions de ce que le conseil va dire. Je pense que l'affaire ne fait que commencer.
On le décrit comme étant un monstre sacré, c'est toute une personnalité. Alors, qui est Carlos?
Alors, qui est Carlos Ghosn, Christian Chavagneux? Non. Qui est Carlos Ghosn?
Écoutez, moi j'ai trouvé pour 2,60€ Carlos Ghosn, citoyen du monde, le livre qu'il a publié. Donc je me suis plongé pour l'émission. Ben écoutez, regardez, vous pouvez jeter un œil. Et vraiment, on comprend un peu qui est Carlos Ghosn à travers les citations du livre. Il est atypique en fait, Carlos Ghosn. Moi je l'ai baptisé le redresseur. Quand il arrive quelque part, attention, c'est que ça va très mal. Il vient pour redresser des entreprises qui vont pas bien. Il l'a fait dans des usines à Rio pour Michelin. Il l'a fait aux États-Unis, il l'a fait au Japon. Et c'est vraiment, il a une réputation de cost-killer, parce que le livre le montre bien, c'est un cost-killer en fait. C'est un seul objectif, maximisation du profit en réduisant les coûts. Je cite M. Ghosn, une entreprise ne gère pas dans la fantaisie au niveau des coûts. On comprend bien ce que ça veut dire. Il est aussi atypique par son niveau de salaire. 13 millions l'an dernier, la moyenne du CAC 40 c'est 5 millions. Là je cite les experts du cabinet Proxinvest, qui sont des gens qui regardent un peu les rémunérations des grands patrons, et partent d'une rémunération, je cite, un peu occulte. Bon, parce que ça veut dire. Et sur les 13 millions, il y en a un peu plus de 5 millions et demi qui sont dus à sa présidence de Nissan. Trois fois ce que sont payés ses équivalents au Japon. Bon, il a cassé les codes culturels, ça c'est sûr. Et il l'a fait dès qu'il est arrivé, le bouquin le dit, il a mis en place ce qu'on appelle des stock options, une rémunération liée à la valeur en bourse de l'entreprise, dès qu'il est arrivé au Japon, alors que ça ne se faisait pas. Enfin, atypique aussi, par l'ambiance un peu barbouze qui l'entoure, et là je renvoie à la longue enquête de Philippe Reltien de France Inter. Une demi-heure d'enquête qui a été diffusée en mars-avril sur l'antenne. Rappelez-vous l'agence Reuters en 2017 qui nous dit des rémunérations cachées en passant par la Hollande. On recommence à entendre parler de la Hollande. Bon, on va voir ce que ça donne. Les faux espions chinois de 2011, des ingénieurs de Renault qui contestaient Ghosn, qui sont accusés d'espionner pour la Chine. Ghosn qui vient aux 20h de TF1 pour dire c'est un scandale, et qui revient quelques jours après pour dire désolé, on s'est fait avoir, c'était une fausse affaire. Et puis en 2005, sa ex-agent secret à qui on aurait demandé d'espionner les portables des administrateurs de l'État, dont un certain Alexis Kohler, qui aujourd'hui secrétaire d'État. Personnage un peu bizarre.
On lui reproche quoi exactement aujourd'hui, Emmanuel Lechypre?
Alors,
parce qu'on a eu des infos, il faut reprendre le fil parce qu'on a eu des infos contradictoires.
Alors quand même, sur le portrait de Carlos Ghosn, Christian a dit beaucoup de choses. C'est un parcours exceptionnel, 20 ans chez Michelin, etc. Les mauvaises langues disent que quand il a été envoyé chez Nissan, alors qu'il était chez Renault depuis 3 ans, c'était justement pour se débarrasser de lui, parce qu'il y commençait à embêter déjà la direction de Renault à l'époque, et Nissan allait très mal. C'est plus qu'un cost-cutter, parce que savoir couper les coûts, c'est une condition nécessaire pour redresser une entreprise, mais pas suffisante. Il a quand même su aussi revoir tous les process de production, d'innovation, etc.
Attendez, donc, il a fait de cette entreprise.
On ne peut pas le réduire à un écarisseur. Vous voyez, il a quand même d'autres talents que celui-là. Et puis sa particularité, c'est que c'était un patron mondial. Si un jour il était à Davos tout le temps, et on avait dit d'ailleurs s'il fallait choisir une personne pour incarner Davos et l'économie mondialisée, c'est Carlos Ghosn, qui passait quand même presque 100 nuits par an dans son jet, ce qui vous déracine quand même un peu. Alors qu'est-ce qui lui est reproché? Alors on a tout entendu, en fait, comme s'il avait fraudé le fisc japonais. En fait, c'est pas ça qui lui est principalement reproché, c'est pas d'avoir planqué de l'argent par rapport à sa déclaration de revenus au fisc japonais. Ce qui lui est reproché, c'est d'avoir certifié en tant que PDG de Nissan, en fait, des comptes qu'il savait a priori truqué, qui sous-estimait en fait
sa propre rémunération.
Et ça, c'est vrai.
C'est pas loin de la fraude fiscale quand même.
Et que, oui, non, mais bien sûr.
Fraude boursière, on entend. Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Et ça, c'est un manquement grave à la législation, donc il mérite d'être sanctionné. C'est surtout ça que lui reproche la justice japonaise. Oui. plus que ce qui nous choque peut-être davantage, qui est tout ce qui relève des soupçons d'abus de biens sociaux, qui eux sont quand même assez nombreux. Alors ça va, effectivement, via cette fameuse filiale aux Pays-Bas, de utilisation de résidences de luxe financées par l'entreprise, des voyages, quelques emplois fictifs, etc. Tout ce que je vous dis là, ça n'est que le c'est ce qu'on soupçonne et, voilà, et on ne le sait pas vraiment encore. C'est ce qui
c'est ce que le parquet japonais nous laisse fuiter jour
oui,
après jour,
jour pour après jour,
accélérer et accentuer les accusations.
Rien ne permet de confirmer que toutes ces oui. informations sont exactes.
Et par ailleurs, présomption d'innocence. Si on prend un peu de hauteur, Christian Chavagneux, cette figure du patron fraudeur, parlons en général, est-ce que c'est si inhabituel que ça? Là, ça a été le coup de tonnerre parce que la figure est incroyable, mais c'est inhabituel ou pas?
Bah, on a de la chance parce qu'on a le sociologue Pierre Lascoum et la criminologue Clara Nagès qui viennent de ressortir la deuxième édition de Sociologie des élites délinquantes qui ne parle que de ça. Donc si vraiment les auditeurs sont intéressés, faut vous jeter sur ce livre. Attention, il y a trois clichés sur les patrons fraudeurs. Hein. C'est généralement des outsiders, des gens qui sont pas dans le business et qui ont un comportement bizarre. Bon, évidemment, pour Carlos Ghosn, on a rappelé son parcours, ça marche pas. Deuxième cliché, une brebis galeuse. Bon, en fait, il y a une littérature américaine sur ce sujet qui commence dès les années 30 et qui va jusqu'à aujourd'hui. Des patrons fraudeurs, il y en a tout le temps. Et ça, les deux auteurs que j'ai cités en citent plein d'exemples. Et puis, toutes les justifications que donnent ces patrons fraudeurs pour dire « Oui, mais écoutez, en fait, j'ai pas vraiment fraudé. » On a commencé à l'entendre. « Oh oui, mais cacher une partie de ses rémunérations quand on fait des déclarations de compte, c'est courant au Japon. Vous voyez, si je le fais, c'est parce que les autres le font, alors que c'est pas forcément vrai. C'est pas si grave. J'ai tué personne, j'ai pas fait de hold-up. » Deuxième justification. Troisième justification. Il n'y a pas vraiment de victimes. Non, juste les salariés, les actionnaires, le budget de l'État, la cohésion sociale. Ça, ils oublient tout ça, mais ils pensent qu'ils ne font pas de victimes. Enfin, dernier cliché, tous pourris. Tous les patrons, c'est des gros fraudeurs. Bon, ça, c'est pas vrai. Heureusement, bien évidemment. Variante, ils sont tous le reflet de cette économie mondialisée néolibérale qui veut accumuler les gains et les profits et donc s'en mettre plein les poches. Rappelez-vous quand même tous les John Law, tous les Fouquet, tous les gens qui s'en sont mis plein les poches sous la monarchie. C'est pas dû au capitalisme néolibéral.
C'est pas dû à la mondialisation.
C'est pas dû seulement à la mondialisation.
En revanche, l'information circule.
Les années 30, la fraude n'est pas que libérale.
C'est surtout dû à ce qu'est l'homme. Et je veux dire, le profil aussi de Carlos Ghosn, c'est quand même aussi ce profil de patron qui, parce qu'ils sont brillants, parce qu'ils ont réussi, finissent par ne plus très bien savoir où est la frontière entre ce qui leur appartient vraiment, ce qui appartient à leur entreprise, et où il y a une forme peut-être de se dire finalement j'ai tellement réussi que j'ai bien le droit de me payer ça, voilà.
Vous dites pas ça, il y a une littérature sur la surconfiance des
exemples.
Élites.
Prenez par exemple le cas de Pierre Suard, ex-patron d'Alcatel, qui avait bien réussi, bon, à qui on a reproché de l'abus de biens sociaux, et puis sans aller jusqu'à l'abus de biens sociaux, pardon.
C'est les biens qui sont sociaux, pas l'abus.
sans aller jusqu'à l'abus de biens sociaux, mais les surrémunérations que ses patrons s'octroient. Reprenez le cas de Antoine Zakarias chez Vinci, et Dieu sait s'il avait réussi chez Vinci. Prenez aussi d'une certaine façon, parce qu'il n'y avait pas assez de contre-pouvoir, encore une fois.
Alors la gouvernance, les contre-pouvoirs.
Les délires de Jean-Marie Messier, qui est allé trop loin sans avoir fait de faute. Mais voyez, et ça c'est très important. Alors juste une étude, je vous cite, et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'en fait... une étude américaine vous montre quand même que les patrons narcissiques, ils sont meilleurs que les autres. Ah. Eh oui. C'est une étude qui a été faite par
vous
des chercheurs.
Vous l'avez piqué à Sandrine Foulon, ce
américain. Eh bien, ils ont étudié les patrons de l'industrie pharmaceutique américaine. Ils ont mesuré leur narcissisme à leur présence en photo, dans les rapports annuels, dans les médias, etc. Eh ben, le résultat, c'est que ceux qui ont le mieux réagi à la concurrence de l'émergence des biotechnologies, ce sont ces patrons narcissiques qui obtiennent effectivement des meilleurs résultats que les autres.
Oui, alors attention, généralement ce genre d'études c'est basé sur la valeur actionnariale, sur la valeur en bourse des entreprises et pas sur le fait qu'elles créent de la valeur ajoutée. C'est ça le vrai problème qu'on a avec tous ces patrons. Il y a une AG de Nissan qui dès 2002 dit Carlos Ghosn il est trop payé, on veut pas. Et le gars est mis de côté. Il y a une assemblée générale en 2016, rappelons-nous, qui vote contre la rémunération de Carlos Ghosn et le conseil d'administration qui passe au-dessus de la volonté des actionnaires. Il n'y a pas de contre-pouvoir interne. On est chez Renault.
C'est pour Renault, oui.
Carlos Ghosn dit dans son livre « J'étais frappé en arrivant chez Renault de la culture du chef. On obéit. Si le chef a dit, je fais, même si je suis pas d'accord, et même, surtout, je vais pas lui dire que je suis pas d'accord. C'est exactement ce qu'il a mis en œuvre, et chez Renault, et chez Nissan. Le code AFEP, MEDEF, sur les salaires, complètement inefficace. La solution, c'est quoi? C'est de payer les patrons en fonction de la valeur ajoutée qu'ils apportent à l'entreprise.
Ah, là, pas il de en la a valeur.
Et non pas de la valeur actionnariale. Est-ce que...
Là, non, la boîte, quand même, Nissan est sortie. D'accord. Nissan allait faire faillite.
D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il est payé autant? C'est parce qu'il a des stock options qui sont liées à la valeur boursière de l'entreprise. Qu'il soit bien payé, parce que c'est un bon patron, ça ne me dérange pas que tous les bons patrons soient bien payés, ceux qui créent de la valeur ajoutée, et on met le salaire en fonction de la valeur ajoutée créée, de la richesse et non pas de la valeur actionnariale.
Il faut rappeler que les rémunérations des grands patrons, elles sont votées par les actionnaires, les assemblées générales, et que la plupart du temps, même si on juge que c'est excessif, eh ben, les assemblées générales, elles votent consciencieusement.
Mais vous voyez bien que ça ne marche pas. D'ailleurs, aucun grand patron n'est venu défendre M. Ghosn.
Oui, d'accord, mais ça ne marche pas.
Il a une grande cote de sympathie parmi ses pairs. Hein, mais on a eu Thierry Breton quand même, qui a expliqué en tout cas la mécanique de la gouvernance sur France Inter en matinale cette semaine. On passe à l'industrie là, on passe à l'industrie. Pourquoi ça arrive maintenant, Emmanuel Le Chypre?
Ça arrive maintenant parce que très clairement, Nissan n'avait qu'une envie, c'était de se débarrasser de Carlos Ghosn. Et là, il se trouve que c'était le moment ou jamais. Pourquoi il voulait se débarrasser de Carlos Ghosn? D'abord parce que les Japonais, ils ne sont pas satisfaits du rapport de force actuel qui existe entre Nissan et Renault. Il faut rappeler que quand Renault reprend Nissan en 99, Nissan est au bord de la faillite, Nissan est à genoux. Donc l'actionnariat actuellement, sa structure, a figé ce rapport-là. C'est-à-dire qu'en gros, Renault possède 43% de Nissan, Nissan ne possède que 15% de Renault sans droit de vote. Or, la réalité, c'est que comme Carlos Ghosn a parfaitement redressé Nissan, aujourd'hui, Nissan, grosso modo, ça pèse deux fois plus que Renault. Donc, chez Nissan, ils en avaient ras-le-bol de ce rapport de force défavorisé. Et puis, pourquoi ça arrive maintenant? Bah, parce que Carlos Ghosn, son objectif ultime, après, c'était la fusion entre les deux entités.
Enfin, une alliance irréversible.
Y revenir. Et puis surtout, ce qui se passe aujourd'hui, c'est profondément la faute de l'État français. Parce que qu'est-ce qui a agacé particulièrement les Japonais? C'est ce qui se passe en 2015.
L'État français, quand l'État français, qui a 15% du capital
qui a 15% de Renault, décrète ses droits de vote doubles. Pourquoi? Pour maintenir des usines en France et pour encadrer la rémunération de Ghosn. Les Japonais, ça leur plaît pas du tout. Parce que pendant qu'on veut encadrer la rémunération de Ghosn, on ne s'occupe pas de l'excès de pouvoir de Carlos Ghosn, de la gouvernance de Carlos Ghosn. Et donc le résultat, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, quand il y a le conflit avec les Japonais, on se dit, eh ben, on va figer la situation tant que Carlos Ghosn est là. Et donc vous comprenez que les Japonais n'ont qu'un intérêt, c'est que ça bouge. Et c'est pour ça que les Japonais aussi avaient intérêt à ce que Carlos Ghosn quitte le plus vite possible la présidence de Renault.
Alors ma dernière question, ça peut bouger jusqu'à
attendez, parce que là, Emmanuel a donné une explication. Allez-y. Je pense qu'il y en a d'autres. Il y a une explication judiciaire, une nouvelle loi japonaise qui permet aux gens qui ont participé à des magouilles, de, s'ils le dénoncent, d'avoir une peine allégée. Et jusqu'à présent, la justice japonaise n'a pas réussi à attraper. Là, il y a un gros poisson. Parce que d'où vient toute cette affaire? C'est quelqu'un en interne qui va dénoncer Carlos Ghosn.
Il va bénéficier de cette nouvelle
lanceur d'alerte.
Qui va bénéficier à un lanceur d'alerte et qui est 3 mois d'enquête à l'intérieur. Et l'explication politique. Le fameux Hiroto Saikawa, qui tue le père, hein, il a été nommé par Carlos Ghosn, le directeur général à la tête de Nissan, et qui veut se débarrasser du français. Il y a aussi l'explication économique, hein, faible rentabilité, parce que Carlos Ghosn, il a bien reboosté Nissan, mais ces dernières années, ça marche quand même un peu moins bien. Faible rentabilité, en retard sur le plan technologique, absence de nouveaux modèles aux États-Unis en Europe, scandale de qualité, avec comme on a eu Volkswagen et tout ça, et la fusion dont les Japonais ne voudraient même pas, on nous dit le conseil d'administration de Nissan aurait de toute façon refusé l'idée d'une fusion. Donc l'explication d'Emmanuel, on la suppose parce qu'on ne sait pas, on n'a pas les plans, mais il y a bien d'autres explications de ça.
L'autre problème, c'est qu'effectivement, et ça c'est très intéressant, pourquoi maintenant? C'est parce que aujourd'hui, le rapport de force est à nouveau en train de s'inverser. C'est-à-dire que c'est Nissan qui est plutôt sur une pente descendante aujourd'hui en matière de rentabilité, alors que Renault est sur une pente ascendante. Exactement. Renault n'est pas concerné par les problématiques de guerre commerciale, États-Unis, Chine, etc., puisque Renault n'est pas là. Renault a une rentabilité qui est en hausse. Renault est bien placé sur les nouvelles technologies, l'électrique, etc. Et donc, les Japonais ne voulaient pas non plus que le rapport de force redevienne favorable à Renault.
En 20 secondes ou 40, est-ce que le divorce, c'est possible?
Non, c'est impossible.
Le divorce Nissan,
ce serait
Renault,
comme un Brexit
Mitsubishi.
Industriel. C'est les liens qui ont été tricotés entre les deux entreprises sont indétricotables parce que Carlos Ghosn disait quelque chose. Il disait il faut que tout ce qui ne se voit pas soit pareil et que tout ce qui se voit soit différent. Et ben voilà, aujourd'hui toutes les plateformes sont pareilles.
En tout cas, on va suivre l'actualité parce que les salariés de Renault en France sont quand même des inquiétudes. Et Christian, le livre dont vous avez parlé, on mettra évidemment les références sur le site. Allez, l'économie comme elle se passe juste à côté de nous ce matin, si vous le voulez bien, nous partons en Italie.
Giuseppe Conte incontrerà il presidente della Commissione europea Juncker sabato sera a Bruxelles, ma che vuole essere il tentativo di mantenere aperto il canale del dialogo con l'Europa.
Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Mathilde, vous êtes la correspondante permanente de France Inter en Italie. Bruxelles a de nouveau retoqué le projet de budget de Rome pour 2019. Donc la sanction financière devient une possibilité. Mais les Italiens n'ont aucune intention, c'est ce qu'on comprend en tout cas, de modifier leur copie. Quelle est la stratégie de Rome? Est-ce que c'est de tenir jusqu'aux européennes?
Rome, effectivement, essaie de gagner du temps. Et ce soir, Giuseppe Conte, le président du Conseil, dînera avec Jean-Claude Juncker à Bruxelles. Il essaiera de le convaincre des bienfaits de son budget. En clair, laissez-nous le premier semestre 2019 pour relancer la croissance avec nos mesures. Ensuite, on corrigera le tir s'il le faut. C'est une direction qui rend tout à fait sceptiques les patrons italiens, entre autres. Ils demandent au gouvernement de changer de cap. Le numéro un de Confindustria, c'est le MEDEF italien, réclame plus d'investissements privés et publics, sachant que les investissements des entreprises italiennes ont chuté en 2017, moins 11%, ceux de l'administration publique de 30%, en décalage par rapport au reste de la zone euro.
En effet, on a des premiers signes de perte de confiance, mais sans panique excessive pour l'instant, Mathilde.
Oui, le spread reste autour des 300 points. C'est ce fameux baromètre de confiance en l'économie italienne, la différence entre les taux d'emprunt italiens et allemands, loin, très loin des 700 points atteints en 2011 au plus profond de la crise. Mais il y a un signal vraiment préoccupant, c'est cette vente de bons du trésor lancée par l'État italien cette semaine et qui a été un flop. Les investisseurs, que ce soit les particuliers ou les institutionnels, pouvaient acheter de la dette moyennant une prime généreuse. Ils ont boudé cette vente qui a rapporté nettement moins qu'escompté, preuve que la dette italienne fait moins envie.
Du coup, en ce moment, on entend parler de plan B recherché en Italie, de solutions alternatives?
Oui, un plan de privatisation d'actifs de l'État est à l'étude. Ce serait la vente d'actifs immobiliers essentiellement qui pourrait apporter jusqu'à 18 milliards. Il est question aussi de lancer un grand plan triennal d'investissement public. Ça, c'est l'idée du ministre des Affaires européennes, très critique, lui, sur la ligne financière du gouvernement. L'Italie cherche donc des solutions et voit son intérêt à dialoguer. Elle va demander du temps à la Commission, au moins 6 mois avant que la procédure d'infraction ne produise ses premières sanctions. 6 mois à compter de décembre, cela nous amène au lendemain des élections européennes qui auront peut-être changé les équilibres au sein de l'Union.
Mathilde Imberti avec nous depuis Rome. Merci à vous, merci à Emmanuel Lechypre, à Christian Chavagneux. Dans 10 minutes, l'invité du Mag'Éco, c'est Roxane Varza, la directrice du campus Station F, fondé par Xavier Niel. Pourquoi le Mag'Éco ne reçoit-il pas plus de femmes? Ça, c'est la question d'une de nos auditrices, Faustine. Elle nous a écrit cette semaine. Eh bien, Faustine, vous avez raison, on en reçoit trop peu parce qu'elles sont trop peu nombreuses aux commandes. Vous connaissez l'expression plafond de verre. Elle date des années 70. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel?
Non, c'est pas vrai.
Ah!
C'est pas vrai. Les femmes, elles sont beaucoup moins nombreuses à vouloir venir dans les médias pour une raison très simple.
Si. C'est pas vrai.
C'est qu'elles ne souhaitent pas venir quand elles ne connaissent pas parfaitement le sujet. Voilà, elles ont des scrupules, alors que les hommes, vous les invitez, ils viennent. Évidemment, ils se demandent pas s'ils sont capables de répondre à vos questions.
Alors ça c'est vrai.
Bah oui,
mais
c'est
pour
vrai.
Les femmes, elles c'est sont toujours bloquées sous le plafond de verre. Vous connaissez cette expression, elle date des années 70, elle est toujours d'actualité. Il y a des entreprises qui ont conscience du problème, qui veulent éliminer les obstacles que rencontrent leurs salariés et ES. Alors venez, Emmanuel Lechypre aussi. Ce matin, nous allons à la Défense, dans la tour CB21, au siège de Suez. Voilà, notre reporter Dila Tebi, là il se fait très discret parce que nous sommes en plein milieu d'une séance de coaching.
Et alors, quid des virus mentaux? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre disque dur? Comment vous l'avez nettoyé à l'intérieur de votre tête?
Alors moi, j'avais un biais psychologique qui était que j'avais toujours eu l'impression d'usurper une identité, en quelque sorte, d'être à la position à laquelle je suis, mais que un jour, quelqu'un allait se réveiller et se rendre compte que j'étais pas la bonne personne pour faire ce que je fais.
Alors c'est le virus mental de soi-disant présumée illégitimité.
Donc là, on est dans le bâtiment qui héberge le groupe Suez et on est en pleine séance de, comment on dit, de mentoring.
Mentoring.
Vous êtes une consultante.
Je suis consultante et je dirige le cabinet Edem Peridem. Je suis Elena Forest.
Vous êtes
Damia Boufferache, directrice de cabinet d'un membre du CODIR de Suez.
Qu'est-ce que vous pensez de cette question, notamment du plafond de verre?
J'ai appris à le fissurer. Il n'est pas encore complètement cassé, il faut être honnête. Ce n'est pas tellement une question de salaire. C'est vraiment une question de posture, c'est-à-dire que je pense que je suis en train de basculer d'une position très good girl exécutante qui fait bien son travail, qui fait tout ce qu'on lui demande, voilà, à toujours bien faire mon travail, mais savoir faire mes choix et savoir dire quand c'est pas faisable, pas possible ou que ça me paraît pas pertinent.
Au niveau de votre vie de famille, vous êtes mariée, célibataire, vous avez des enfants ?
Je ne suis ni mariée et je n'ai pas d'enfants.
Est-ce que ça peut être un poids dans votre vision de votre carrière, vous dire « ah, ça peut être pénalisant si je veux avoir des enfants ou... »
Non, à ce niveau-là, j'ai fait le ménage. Aussi parce qu'autour de moi, j'ai vu des femmes qui y sont parvenues, qui sont à des niveaux très hauts de l'organisation, pas uniquement chez Suez. Donc là-dessus, je dirais, c'est peut-être aussi générationnel, mais je me suis un peu affranchie de ces schémas. Je ne me dis pas que ça va être un frein dans ma vie.
Dernière chose, après je vous laisse continuer votre séance. Est-ce que vous touchez la même chose qu'un homme, s'il avait le même poste ?
Je pense que oui.
Vous le pensez ?
Oui, parce que c'est un peu compliqué de parler d'éléments chiffrés que je ne connais pas, mais...
Du moins, vous l'espérez.
Je l'espère, évidemment.
Et nous aussi, on l'espère pour vous, Damia Boufferage, bras droit d'un des hommes du CODIR, le comité directeur. Et on espère que le mentoring permettra de briser le plafond de verre. Cette rareté des femmes au top jobs, au poste opérationnel, c'est un des facteurs qui explique qu'elles gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes. Il y a donc des entreprises, bonnes élèves, essentiellement les très grosses, qui mettent en place des procédures internes de correction. On retrouve Dila Tebi, notre reporter, dans la tour de ce géant mondial de l'eau et des déchets.
Isabelle Calvez, directrice des ressources humaines du groupe Suez. Alors Suez, c'est 88 000 personnes partout dans le monde, dans 75 pays. Donc vous voyez, c'est un groupe très international qui n'est pas encore, à mon goût, assez féminin. Nous avons 19 000 femmes. Donc à peu près 20% de femmes dans le groupe. Et nous nous sommes donné un objectif d'arriver à 30% de femmes cadres, managers, partout dans le monde. On y est presque. On est à 29%, donc on y est presque. Et je pense qu'il faudra aller, évidemment, encore plus loin. La question maintenant, pour moi, c'est la question de la promotion. Et c'est là où on tombe sur le plafond de verre, c'est que pour des questions ou pour des raisons visibles ou invisibles, par des biais conscients ou inconscients, les femmes sont quand même moins promues dans des postes de responsabilité. Et on doit s'attaquer à cette question-là.
On parle bien du groupe Suez, là.
Oui, pour le groupe Suez, bien sûr.
C'est-à-dire en termes de chiffres ?
Les top exécutives du groupe, nous avons 170 top exécutives, 23% de femmes. Et cette année, justement, pour remédier à cette situation, dans les promotions qu'on a pu faire cette année, 70% des promotions étaient des femmes. Alors, nos bonnes pratiques, c'est le recrutement, ouvrir tous nos postes, quels que soient les métiers, aux femmes. Deuxième bonne pratique, travailler sur l'égalité salariale, évidemment, s'assurer des promotions. On s'assure que les retours de congés maternité, qu'à leur retour, les femmes sont évidemment augmentées, qu'elles ne sont pas pénalisées dans les promotions. On a mis en place du mentoring pour aider les femmes justement à accéder à des postes importants. Et par le mentoring, on leur fait prendre conscience justement des freins culturels sur la diversité.
Les blocages seraient d'abord dans les têtes des hommes comme des femmes. C'est ce que pense Emmanuelle Quilès, patronne de Janssen France. On la retrouve dans son bureau, dans une autre tour.
Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle un plafond de verre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser et on se fait très mal quand on tape dessus ? Je ne sais pas si c'est un plafond de verre. Moi, je ne suis pas persuadée. Les chiffres disent qu'il y a peu de femmes dans les comités de direction et c'est très dommage. Mais moi, je ne dis pas que c'est impossible. Avec un plafond, on a l'impression qu'on ne peut jamais l'exploser. Moi, je reste persuadée, optimiste sur le fait que ce soit possible de faire progresser les choses et il faut emmener les hommes avec nous. Alors, je suis une des quelques anomalies. Il y a très peu de présidentes dans les laboratoires de l'industrie pharmaceutique. J'ai le poste que j'occupe parce que j'ai travaillé. Et j'ai travaillé comme n'importe qui, comme des hommes prétendent que c'est ce qui fait leur particularité. Le sujet, c'est d'être dans une société, dans une culture entourée de personnes qui respectent aussi bien les hommes que les femmes et qui leur donnent leur chance. Donc, ça se passe à tous les niveaux. Ça se passe à l'école et ça se passe dans le monde professionnel et ça se passe chez soi. Donc, pour moi, c'est des choses qui sont absolument essentielles et indiscutable. Donc c'est là-dessus qu'il faut que tout le monde travaille, les hommes et les femmes.
Ça représente combien de personnes ici, Janssen France, le nombre de salariés ?
Il y a 1260 collaborateurs chez Janssen en France. Alors la place des femmes est importante dans notre entreprise, il y a 60% de femmes dans nos effectifs. Et cette représentation est également la même au sein de mon comité de direction. Je suis quasiment à 60-40 aussi dans mon comité de direction. Donc pour ça, on a mis en place des programmes qui sont des programmes qualitatifs, pas quantitatifs, qui ont bien sûr comme objectif de faire en sorte d'avoir des femmes l'équipe de direction. Et ces programmes qualitatifs ont pour objectif déjà d'éviter tous les biais inconscients qui ont lieu dans les relations entre les différents collaborateurs et dans le recrutement. Et ces formations sont obligatoires pour l'ensemble du personnel. Donc l'industrie pharmaceutique, on est une industrie très réglementée, donc on a l'habitude tous de suivre des formations, mais les formations qui concernent les biens conscients sont également obligatoires au même titre. Et elles nous apprennent à reconnaître parfois des erreurs de jugement qu'on peut avoir. Et notamment dans certains métiers, puisque bah, chez nous, on a besoin aussi d'avoir des directeurs de vente et il peut y avoir des directrices des ventes. Alors, je prends ça comme exemple, puisque très souvent, vous voyez dans des comités de direction, on vous dira « bah oui, moi, ça va, j'ai la parité parce que j'ai une directrice de la com, j'ai une directrice des ressources humaines », puisqu'on imagine toujours les femmes dans ces métiers, en fait, qui sont un peu ce qu'on appelle les « soft skills » et qui sont pas le dur de la spécificité de l'industrie. Et pour moi, c'est très important d'avoir aussi bien une directrice médicale, une directrice des ventes qui occupe ces postes-là. Et il faut leur donner confiance et pour ça, il faut beaucoup en parler entre nous, les hommes et les femmes.
Pour voir plus de femmes aux commandes, faut-il aller plus loin que ces bonnes pratiques propres à certaines entreprises? La question fait débat. On voit bien pour les conseils d'administration en tout cas que la loi et la contrainte des quotas ont changé la donne. Caroline Delamarnière est présidente du Think Tank, l'Institut du capitalisme responsable.
Ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde l'évolution de la courbe de ce qu'on appelle les comités exécutifs, c'est-à-dire les organes qui dirigent de façon opérationnelle les entreprises, on était à 6,3% en 2007, c'est-à-dire que c'est assez récent.
De présence de femmes.
Voilà, 6,7% de femmes dans les comités exécutifs. Quand on regarde l'évolution en 2018, aujourd'hui on est à 15,6%. Donc l'évolution est extrêmement douce, il n'y a pas eu de réglementation, ça s'est fait de façon relativement linéaire. En revanche, quand on regarde l'évolution des femmes dans les conseils d'administration, donc des organes de contrôle, toujours en 2007, on est à 8,5% de femmes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde l'évolution, donc avec la loi Copé-Zimmermann de janvier 2011, c'est à partir de 2011 que la courbe monte en flèche et que l'on passe de 8,5% en 2007 à 42,7% pour le CAC 40 en 2018, voyez.
Donc de présence de femmes dans les conseils d'administration, ce qu'impose la loi Copé-Zimmermann.
Voilà, absolument. Donc on voit bien que la courbe suit parfaitement l'évolution réglementaire.
Agir dans les entreprises et sur les entreprises ne suffirait pas. Il faudrait transformer l'économie et la société. C'est ce que défend Hélène Périvier, économiste à l'OFCE.
La question du plafond de verre, elle concerne les entreprises du point de vue de la gestion de leurs ressources humaines, ça c'est un fait, mais la question des inégalités femmes-hommes et des inégalités professionnelles en particulier, c'est une question beaucoup plus large qui questionne notre organisation économique et sociale, nos politiques publiques, et de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup à faire. On pourrait parler en matière de politique d'articulation vie familiale, vie professionnelle. Si on veut que les femmes soient impliquées dans leur vie professionnelle et soient sur un pied d'égalité avec les hommes dans leur carrière et leur déroulement de carrière, il faut inversement que les hommes soient impliqués autant qu'elles dans la famille. Or, on voit, et ça, les travaux en économie sont tout à fait clairs sur cette question-là, que l'arrivée des enfants dans la famille constitue un frein à la carrière des femmes. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ce phénomène de vase communicant. Et là, il n'y a que les politiques publiques qui peuvent aider par le biais de congés parentaux mieux partagés, de modes de garde plus étendus, etc. Néanmoins, c'est vraiment aussi en associant et les entreprises et les politiques publiques qu'on pourra faire avancer les choses.
Et où est-ce que cette connexion doit se faire, ce travail entre les entreprises et l'État?
Alors, il y a deux points fondamentaux. Il y a la question du financement. Si on reprend l'exemple des congés, qui va les payer? Donc, il y a bien sûr la sécurité sociale qui paye, par exemple, les congés paternité, maternité. Donc, ça, c'est déjà pris en charge. Mais on sait que les entreprises, pour les rémunérations qui sont au-dessus du plafond de la sécurité sociale, mettent aussi la main à la poche parce qu'elles doivent compléter ces rémunérations. Donc là, évidemment, de ce point de vue-là, il y a une collaboration à faire entre les deux. Et puis, encore une fois, du point de vue de l'image qu'un homme peut avoir en tant que père dans l'entreprise, donc le fait qu'un homme prenne du temps pour ses enfants, il peut être stigmatisé pour se comporter ainsi. Donc il faut qu'on crée une culture dans l'entreprise qui favorise ce comportement. Et inversement, hein, si une femme est très investie dans sa carrière alors qu'elle a des enfants, elle ne doit pas être stigmatisée et, disons en tout cas, évaluée comme étant une mauvaise mère. Donc il faut vraiment qu'il y ait un effort qui soit fait dans la culture de l'entreprise, mais au-delà de ça, c'est l'ensemble de nos sociétés et nos normes que nous devons changer pour que chacun et chacune trouve sa place, à la fois dans la famille et sur le lieu de travail.
Ce qu'il faut mettre en place si on veut vraiment que les femmes brisent le plafond de verre, c'était le reportage de Dilatépi.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et la directrice de Station F, le campus parisien aux 1000 start-up, est avec nous. Bonjour Roxane Varza.
Bonjour.
90% des start-upeurs sont des hommes, une étude de 2017 de la French Tech. Vous acquiescez malheureusement. Donc, le nouveau monde, est-ce qu'il est encore pire que l'ancien ?
C'est une question très intéressante. Ce que nous, on voit, enfin ce que moi j'ai constaté, c'est que depuis plusieurs années, on voit que le nombre de femmes qui montent leur start-up devient de plus en plus nombreuse. Malheureusement, les profils techniques, les femmes qui arrivent à lever du financement pour leur start-up restent encore minoritaires, mais il y a plein de choses à faire pour changer ça.
Vous, vous avez 40% de femmes fondatrices sur votre campus. Est-ce que c'est parce que vous avez mis en place des quotas ?
Je précise, c'était pas pour l'ensemble du campus, c'est pour un de nos programmes, le plus grand programme de Station F qui s'appelle le Founders Programme. On n'a pas fait d'action spécifique, donc ça nous a un peu étonné aussi d'arriver à ce chiffre-là. Mais je vous cache pas qu'on a incité énormément de femmes à postuler. Et je pense que c'était le nombre de candidatures qui a forcément impacté aussi le nombre de femmes qui ont été sélectionnées.
Alors pourquoi si peu de femmes finalement ? Est-ce que si on repart aux racines, est-ce que ça se joue pour vous dans la tête des femmes, dans l'éducation des femmes, dans le regard des hommes, dans l'implication des hommes? Vous avez entendu tout ça dans le reportage?
Je pense que c'est tout. C'est un mélange de tout. Il y a plein de facteurs différents. Je pense que ça commence aussi dès l'école. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de différentes idées et d'avis sur le sujet. Plein de ressources qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 5 ans. Ce que nous, on fait à Station F, et on croit beaucoup au rôle modèle. Donc, on essaie de promouvoir, de mettre en avant des femmes qui ont réussi, qui ont monté leurs entreprises.
Les role models, les figures de proue.
Exactement. Merci beaucoup.
Les figures de proue.
Et puis, ce que nous, on a aujourd'hui, par exemple, à Station F, c'est sur les 2 entreprises qui ont été rachetées en 1 an, les 2 ont des femmes dans l'équipe fondatrice.
Mais vous n'êtes pas particulièrement pour des quotas?
Pas spécialement, non, parce que je trouve que souvent les femmes veulent savoir qu'elles ont mérité leur place et c'était pas une discrimination positive qui a joué en leur faveur.
Vous, dans le monde du numérique, le plafond de verre, est-ce que c'est que vous ne l'avez pas rencontré ou est-ce que c'est que vous n'aviez pas de frein psychologique, vous l'avez juste pas vu?
Très sincèrement, je sais pas ce que ça veut dire vraiment. Moi, je l'ai jamais vraiment constaté, je l'ai jamais vraiment vécu. Je pense que tout le monde a des petites histoires, des anecdotes, mais personnellement, je l'ai jamais senti.
Pourtant, c'est un terme américain qui date des années 70, et il paraît que la Silicon Valley, où donc vous êtes née, elle est quand même particulièrement macho.
Ça peut l'être, oui, en effet. Je pense que ici, enfin, le mouvement MeToo, par exemple, qui a beaucoup impacté notre milieu et on a vu beaucoup de choses qui sont passées dans la milieu tech aux États-Unis, c'était pas forcément traduit dans l'écosystème en France. On n'a pas vu les mêmes choses de la même manière.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aux États-Unis, MeToo, par exemple, a changé la façon de faire là-bas?
Non, ça veut dire qu'il y avait des histoires qui sont sorties là-bas, qu'on n'a pas vues en France parce que peut-être les choses sont moins graves.
Vous parliez des financiers tout à l'heure. Il y a quelques jours dans Le Monde, on pouvait lire que dans les start-up de l'éducation, une femme levait 2 fois moins d'argent que les hommes auprès des investisseurs. Donc il faut changer le regard dans la tech, mais il faut aussi changer le regard des financiers.
En effet, je pense qu'au niveau du financement, les chiffres sont très très bas. C'est pas que pour les start-up dans l'éducation, c'est pour tous les start-up confondus. Avec une association que j'ai cofondée, Starter, on annonce chaque année des chiffres autour de l'investissement, les montants levés par des femmes. Ces chiffres sont très très bas, ils ne changent pas, donc il faut faire quelque chose. Je pense aussi que c'est quelque chose à faire au niveau des équipes dans les fonds d'investissement. Aujourd'hui, les équipes sont aussi majoritairement masculines.
Donc il faut changer ça. Pourquoi est-ce qu'il faut des femmes dans le monde du numérique finalement? On se dit Apple, Google, Facebook sont des hommes, alors pourquoi?
Je pense que c'est déjà parce que l'innovation, la diversité peut beaucoup contribuer à l'innovation. Donc si on veut créer des innovations qui impactent toutes les populations, qui impactent toutes les problématiques, déjà il faut avoir plein de gens des différents profils et pas que des femmes. Je parle aussi des étrangers, des gens des différents milieux sociaux. Donc vraiment,
en effet, le start-upper, c'est un homme blanc, diplômé.
C'est un peu le cliché, mais c'est pas que ça.
Non, ça n'est pas que ça.
Bien évidemment, c'est pas que ça. Donc oui, je pense que c'est pour vraiment avoir des innovations qui contribuent à cette planète. Oui, il faut avoir plein de différents profils. Et puis je pense aussi, on oublie que les femmes peuvent énormément contribuer. Si par exemple on recrutait que des hommes, on ignore 50% de la population qui peut contribuer, faire partie d'une équipe, vraiment jouer un rôle. Les femmes ont beaucoup de pouvoir d'achat aussi.
C'est-à-dire, on fera pas les mêmes applications, on fera pas les mêmes produits.
Je pense qu'on ferait des choses vraiment très différemment.
Et donc, ça serait commercialement
aussi très intéressant, en effet.
La réussite de nos start-up françaises à présent, si vous voulez bien, ça y est. Est-ce que la France est dans le radar des investisseurs?
Complètement. Je pense que les choses ont bien changé depuis 2-3 ans. Aujourd'hui, je pense, c'est aussi impacté par ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, un peu en Angleterre avec le Brexit. Mais on voit aussi qu'il y avait on voit qu'il y a des endroits qui sont beaucoup moins attirants pour les start-up, les gens qui veulent plus aller là-bas pour monter leurs entreprises. Donc aujourd'hui, énormément d'entrepreneurs se retournent vers la France.
Et du côté des investissements, on arrive à quel chiffre ?
Les chiffres sont aussi très importants. La France aujourd'hui se place en tête des nombres de levées de fonds. Donc c'est pas encore la volume qui est le plus important en France, mais si on est une jeune start-up qui vient juste de démarrer, on a plus de chances à trouver des financements en France que dans les autres pays.
Alors sur ce financement justement, il y a eu des critiques qui sont élevées ces derniers mois. Par exemple, des critiques qui ont dit « Oui mais les investisseurs, là les start-up quand même, ils s'en servent surtout comme des objets financiers. » Certains investisseurs, pas tous les investisseurs. Des objets qui peuvent permettre d'avoir des crédits d'impôt, des abattements fiscaux qui rapportent du 5-7%. Et finalement, ces investisseurs, ils ne soucient pas du tout du projet, de la finalité. Est-ce que vous les entendez ces critiques?
Il y en avait toujours des investisseurs comme ça. Il y aura toujours ce qu'on appelle du smart money. Donc ça, c'est des investisseurs expérimentés. Souvent, c'est des anciens entrepreneurs qui connaissent le métier de l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi des investisseurs qui sont juste là pour des intérêts financiers. Et je pense que ce n'est pas si mauvais parce que ça permet aussi aux startups de trouver du financement.
Mais quand même, si on reste sur cette idée de l'argent, il y a les investissements privés, il y a 10 milliards d'argent du contribuable, d'argent public. Au bout de 5 ans, on a quand même 90% des startups qui ont disparu. Est-ce qu'on n'a pas une idée de gaspillage ?
On peut pourquoi pas voir les choses comme ça, mais moi je pense de toute façon à l'entrepreneuriat c'est un risque. Enfin, il faut vraiment donner la chance à tout le monde et ça veut dire aussi qu'il y aurait des idées qui vont parfois marcher et d'autres idées qui vont moins bien marcher. Donc aujourd'hui ce qu'on voit c'est avec toutes les structures d'accompagnement qui ont été mises en place, ces chiffres sont en baisse, les start-upers ils commencent beaucoup à avoir plus de conscience sur quelles sont les bonnes décisions, il y a beaucoup d'éducation autour de qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire et comment on peut apprendre de ses échecs et ses erreurs. Donc je pense que les situations s'améliorent de toute façon.
Mais 90%, c'est un chiffre que vous confirmez au bout de 5 ans, la pérennité des startups ?
Ce que nous, on a constaté, par exemple, chez Station F, parce que ça, c'est les chiffres que je connais un peu mieux, c'est que sur 1000 startups en un an, on n'avait que 20 startups qui ont arrêté leurs activités, et ça, c'est beaucoup moins que le chiffre que vous venez de me dire.
En effet, oui, ça, c'est beaucoup moins. C'était un chiffre global, le mien. Alors, où sont les licornes ? Où sont les super startups comme Blablacar ? Il y en a seulement 4 en France, et le chiffre est complètement bloqué depuis 2015.
Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Parce qu'aussi, les startups qui lèvent et qui lèvent et qui lèvent, je sais pas, on parle beaucoup aussi de bulles depuis quelques années, donc je sais pas si c'est ça qu'on cherche à créer. Il y a plein de façons différentes de créer de la valeur avec des startups, c'est pas que des licornes. Donc oui, peut-être il en manque en France, mais peut-être il y en a trop ailleurs.
Trop par exemple au Royaume-Uni, parce qu'il y en a beaucoup.
Ils en ont beaucoup, oui. Ils en ont beaucoup aux États-Unis, ils ont des valorisations astronomiques qui ont aussi d'autres impacts sur le marché, sur l'écosystème. Donc je pense que la situation en France n'est pas si mauvaise que ça.
Roxane Varza, vous êtes la France des startups et ce samedi on a la France des gilets jaunes, vous êtes les cajolés, eux ils se disent oubliés. Est-ce que ces deux France-là sont deux France finalement qui s'ignorent, qui ne peuvent rien l'une pour l'autre ?
Non, je pense pas du tout, en fait, parce que je crois qu'il y a un entrepreneuriat qui est uniquement fait par l'élite, c'est pas un entrepreneuriat réussi. Donc, je crois vraiment que n'importe qui, tout le monde peut devenir entrepreneur, tout le monde peut créer sa start-up. C'est des start-up, comme on disait tout à l'heure, avec la diversité, qui vont s'adresser à des différentes populations, des différentes problématiques. Ce que nous, on voit à Station F, par exemple, on a des programmes qui sont dédiés aux entrepreneurs qui viennent des différents milieux sociaux, avec des profils différents. Donc, c'est pas que des MBA, c'est pas que des écoles de commerce, c'est pas que des écoles d'ingénieurs. Et c'est ces personnes qui ont créé vraiment des super projets. On a par exemple un ancien détenu aujourd'hui qui monte sa start-up.
C'est Tali Fofana.
Exactement.
Alors, quelle est l'histoire de Tali Fofana ?
Tali Fofana, il est quelqu'un qui a été arrêté pour le vol de voiture et aujourd'hui, il crée un système d'anti-vol. Donc, je pense qu'il n'y a pas de meilleur profil pour faire ce projet.
Roxane Varza, la directrice de Station F. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.
Thank you. Sandrine Foulon. Alors, nous avons reçu dans la boîte aux lettres électronique, dont on n'arrête pas l'écho, la question d'Élodie. Élodie est assistante dans une agence de communication. Elle entend dire que les salariés se précipiteraient en masse pour solder leur compte personnel de formation avant le 1er janvier. Parce qu'au 1er janvier, Sandrine,
ça passe en euros.
Voilà. Alors, faut-il vraiment se dépêcher? C'est sa question.
Ce qui est certain, Élodie, c'est que le compte personnel de formation, le CPF, devient monétisable dès le 1er janvier prochain. Aujourd'hui, vous cumulez des heures sur ce compte, 24 heures par an, dans la limite de 150 heures sur 8 ans. L'an prochain, ces heures ne seront pas perdues. Elles seront juste converties en euros à raison de 15 euros de l'heure. Une fois que vous les aurez soldées, c'est fini. Vous ne cumulerez plus d'heures. Vous recevrez chaque année, pendant 10 ans, 500 euros sur votre compte ou 800 euros si vous n'avez pas de qualification. Alors oui, Élodie, si vous avez un projet de formation et un CPF bien rempli, mieux vaut le solder avant les fêtes. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez encore demander à l'OPCA, votre organisme collecteur des fonds de la formation, de financer le cursus que vous avez choisi. Et selon l'OPCA dont vous dépendez, l'heure de formation varie de 30 à 80 euros. Le coût moyen d'une heure de formation vaut 38 euros sur le marché. À 15 euros de l'heure, quel que soit votre statut, salarié ou demandeur d'emploi, ce sera plus difficile d'obtenir la formation de vos rêves.
Donc là, Sandrine, vous êtes quand même en train de nous dire qu'il faut vite solder son CPF.
Eh bien non, il n'y a pas forcément d'urgence, surtout si vous n'avez pas de projet précis. En plus, les OPCA qui vont disparaître aux 12 coups de minuit du 1er janvier pour se transformer en OPCO, en opérateur de compétences, eh bien ces OPCA clôturent déjà pour certains le financement des formations. Mais surtout, Élodie, il faut considérer que 2019 sera une année transitoire. À titre exceptionnel, les nouveaux opérateurs pourront abonder les demandes de financement. Exemple, vous avez 60 heures à 15 euros, vous disposez donc de 900 euros, l'OPCO pourra doubler cette somme. Le vrai chamboule-tout commencera en 2020 pour les titulaires d'un compte personnel de formation. Ce sera la chasse au trésor, ce sera la chasse au financement. Oui. Soit une personne complétera avec ses deniers personnels, soit elle se tournera vers son entreprise qui éventuellement mettra la main à la poche, soit vers la branche en fonction de priorités qui auraient été définies. Comme le rappelle René Bagorski, co-auteur d'un rapport sur les OPCO avec Jean-Marie Marx, la logique du système est de mobiliser des droits à la formation pour les besoins de l'entreprise et de l'économie, afin que les individus soient employables sur le marché. Mais c'est toute l'ambiguïté d'un droit attaché à la personne, qu'on est censé utiliser comme on veut, sans intermédiaire, avec son smartphone, mais dont le financement sera souvent insuffisant. Surtout quand on choisira une formation très qualifiante ou de longue durée pour se reconvertir.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.